18h19 sur RTL, très belle soirée.
C'est le nombre de montres connectées que compte produire Tag Heuer l'année prochaine à destination du monde entier. Une bonne nouvelle pour la Chaux-de-Fonds où s'est assemblé ces montres. Jean-Claude Biver devrait être avec nous, c'est le directeur de Tag Heuer.
FFFH, il y a beaucoup trop de F ici. Ces quatre lettres désignent le Festival du film français d'Helvétie qui bat son plein jusqu'à dimanche à Bienne. On retrouve son directeur Christian Kellenberger après 18h30. Avec lui, nous parlerons de la place des films suisses dans ce rendez-vous dédié au cinéma dans la langue de Molière.
Il reste 8 mois avant un vote hautement symbolique à Moutier. La ville de 8000 habitants peut décider de rejoindre ou pas le canton du Jura. Ce sera le 18 juin. Peut-être l'épilogue de la question jurassienne qui a déchaîné les passions durant des décennies. Nous serons tout à l'heure avec Serge Jubin. Il est correspondant de l'Arc jurassien pour le journal Le Temps.
Jusqu'à 19h, place publique. Nadia et Gabriel.
Et bonsoir Nadia.
Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous. Bienvenue dans Place Publique. Elle a tout d'une montre classique et pourtant elle ne fait pas que donner l'heure. Son écran digital et tactile permet d'accéder à d'autres applications. Moteur de recherche, carte interactive, musique, compteur de pas, etc. Je ne vous parle pas de l'Apple Watch ni de la Gear S3 lancée par Samsung, mais de la montre connectée de Tag Heuer assemblée à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Jean-Claude Biver, bonjour.
Vous nous entendez, Jean-Claude Biver, cette fois-ci?
Oui, très bien.
Et nous aussi, on s'en réjouit. Alors, vous êtes le responsable du pôle horloger pour le groupe LVMH. Vous dirigez Tag Heuer, dont la montre connectée que vous avez lancée l'année dernière est assemblée à La Chaux-de-Fonds, on le disait. Et vous nous avez appris cette semaine, en le disant à nos confrères de la GFI, que vous comptiez produire l'année prochaine 100 000 montres connectées, preuve que, apparemment, votre pari en valait la peine.
Écoutez, oui, c'est peut-être un peu trop tôt encore. Nous faisons en général des paris qui doivent durer au moins 5 ans. Donc, on n'est qu'à la fin de la première année, et même pas. Mais si vous voulez, nous avons quand même un pressentiment, nous avons certaines informations qui nous font penser que la montre connectée, elle a véritablement un avenir. Et donc, nous avons décidé en conséquence, d'une part, de commencer de les assembler à La Chaux-de-Fonds. On aura un atelier l'année prochaine d'environ 50 personnes, un centre d'assemblage. Ce sera la première fois qu'on assemblera des microprocesseurs. Et puis, nous ouvrons également une unité en Silicon Valley, en Californie, à Santa Clara, dans le campus de Intel. Donc, il y a à la fois un transfert de technologie, il y a des investissements importants. Donc la montre connectée, tout d'un coup, maintenant, elle prend vraiment forme. Et si nous faisons 100 000 montres connectées l'année prochaine, nous avons une production annuelle d'environ 700 000, eh bien on voit que la montre connectée va faire déjà plus de 10% l'année prochaine. Nous avons également des budgets optimistes. Les budgets optimistes parlent de 150 000 pièces l'année prochaine. Donc on oscillera entre 100 000 et 150 000.
Il me semble que plus les mois passent ou les jours passent et plus la production augmente. C'est vraiment place à l'optimisme. Qu'est-ce qui vous fait justement croire à ce pari dont on parlait tout à l'heure, alors qu'il y a certains signaux cet été qui nous montrent, par exemple, il y a des études qui disent que voilà, les ventes de montres connectées dans le monde marquent plutôt le pas. Qu'est-ce qui vous fait, vous, y croire?
Alors, écoutez, si les montres connectées marquent le pas, c'est fort possible. Moi, je connais pas les chiffres d'Apple. On entend dire.
C'est surtout Apple. Vous avez raison. C'est...
Voilà, on entend dire que c'est un échec. De l'autre côté, Apple prétend être le deuxième plus grand producteur de montres suisses. Donc, il y a de tout. Maintenant, nous avons des réalités. La réalité, c'est que nos montres, on n'arrive pas à en livrer suffisamment et la demande ne faiblit pas. Donc nous avons une demande extrêmement forte et ceci nous dit d'une part que d'avoir choisi une option de faire une montre connectée qui ressemble à une montre, qui a tout l'ADN d'une montre, qui a même l'âme d'une montre, et qui ressemble à s'y méprendre, non pas à un ordinateur au poignet, mais à une vraie montre. Et puis, cerise sur le gâteau, nous permettons quand même, moyennant à un certain coût, naturellement, à chacun de pouvoir un jour transformer sa montre électronique, sa montre connectée, lorsqu'elle deviendrait obsolète, et d'y intégrer dans la même montre un mouvement mécanique. Donc, tout cela fait que nous sommes totalement différents de nos concurrents, qui sont en général les fabricants d'ordinateurs. Et par cette différence, nous avons des chiffres qui sont le contraire de ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire pour nous, nos ventes sont en permanence, chaque jour, en hausse. Et voilà pourquoi je suis optimiste. Je suis aussi optimiste parce que j'ai vu les nouveaux modèles. J'ai vu les modèles que nous allons sortir à partir du mois d'avril, donc dans 6 mois à partir de maintenant. Eh bien, quand je vois ces modèles, il y en aura qui seront en or, il y en a qui sont en céramique, en carbone. Il y a une collection extraordinaire qui me fait dire, mais ça va se vendre. Donc voilà, donc nous avons pris l'option d'y croire. Nous avons les premiers signaux qui nous donnent raison et maintenant on accélère.
Vous avez parlé tout à l'heure de vos investissements en Californie, dans la Silicon Valley. Est-ce que ça voudrait dire que l'âme de vos montres sera américaine ?
Alors, l'âme de la montre, si l'âme s'appelle microprocesseur, eh bien, l'âme est américaine, puisque le microprocesseur n'est que assemblé chez nous. Il est dessiné et il est d'origine californienne et il vient d'Intel. Intel, qui est le leader mondial des microprocesseurs. Nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité en Suisse d'acheter des microprocesseurs suisses dont la complexité permet de faire un téléphone ou une montre connectée. Nous avons des microprocesseurs en Suisse, mais qui ne permettent pas l'ensemble de la complexité. D'ailleurs, il n'y a que 8 fabricants de microprocesseurs qui livrent les microprocesseurs aux télécoms. Donc voilà. Alors on pourra dire l'âme, l'idée, elle est californienne du microprocesseur et puis ensuite, tout le reste est assemblé et tout le reste est d'origine suisse, dessiné par Suisse, conçu en Suisse. Mais le microprocesseur, il n'est pas dessiné en Suisse. Il vient de l'intelligence de Intel, qui est le fabricant du microprocesseur.
Jean-Claude Biver, vous restez une minute avec nous encore. On va écouter le rappel des principaux titres avec Jean-Paul Pitchy qui était à côté de moi et Jean-Claude Biver. On vous retrouve dans un instant.
Et c'est l'heure du flash de 18h30. Et on s'informe avec vous, Jean-Paul Pitchy.
Bonsoir. Le Conseil d'État neuchâtelois dépose plainte contre l'un de ses anciens membres. La chancellerie d'État indique qu'une plainte a été déposée auprès du parquet régional de La Chaux-de-Fonds à l'encontre de Frédéric Hénard. Le chaux-de-fonnier s'est vanté en milieu de semaine d'avoir rempli 267 bulletins de vote en vue du scrutin du 25 septembre. Roland Maty rempile pour 4 ans. Le maire de la Neuville a été élu tacitement aujourd'hui. Aucun autre candidat ne s'est annoncé pour briguer le poste. Le délai pour le dépôt des listes électorales est arrivé à échéance à midi. Les élections auront lieu le 30 octobre. La prise d'image par drone n'est pas problématique dans le Jura. C'est ce que le gouvernement a répondu à un postulat de Damien Lachat. L'élu UDC demandait à l'exécutif d'étudier l'opportunité de fixer des restrictions sur l'utilisation des drones munis de caméras en milieu urbain et en zone résidentielle. Le texte avait été accepté par le Parlement jurassien en septembre 2015. Le gouvernement a donc analysé la situation. Il estime qu'il n'y a pas de raison de légiférer pour l'instant. Le nom du nouveau chef de l'armée suisse est connu. Il s'agit de Philippe Rebord. Le Valaisan a été nommé aujourd'hui par le Conseil fédéral. Âgé de 59 ans, Philippe Rebord aura pour tâche de porter la réforme de l'armée. Le ciel ne nous fera pas de cadeau. Les nuages vont se maintenir au-dessus de nos têtes ce soir, cette nuit et demain. Des averses sont possibles à tout moment. De brèves éclaircies pourraient toutefois briser la grisaille. Il fera entre 9 et 12 degrés en montagne, en plaine, à peine plus chaud avec des maxima compris entre 13 et 17 degrés. Prochain rendez-vous avec les informations, le flash à 19h. Très belle soirée.
Place publique.
Et on retrouve Jean-Claude Biver qui est avec nous. Jean-Claude Biver, on parle de ces montres connectées, de votre montre connectée. Une nouvelle qui a dû vous faire plaisir, les nouvelles montres lancées par Samsung ou Asus ressemblent davantage à des montres classiques. C'est un peu le pari que vous avez fait, vous. Aujourd'hui, quel sentiment domine? Est-ce que vous vous réjouissez quelque part d'être un peu le précurseur? Ou bien vous craignez, avec ces apparences qui se ressemblent de plus en plus, une concurrence de plus en plus féroce?
Alors, le jour où je craindrai la concurrence, il faudra que je prenne ma retraite. On ne peut jamais craindre la concurrence. La concurrence stimule, la concurrence permet d'avancer. Et la concurrence, si j'ose dire, elle est saine. Elle est... Et je suis un battant, et donc la concurrence ne va pas me faire peur. Maintenant, la concurrence a quand même des choses extrêmement positives. Si vous êtes tout seul à lancer une mode, une tendance, vous aurez beaucoup plus de difficultés à l'établir que si on est 4 ou 5. Donc, le fait que d'autres arrivent sur le marché avec des idées un peu similaires aux nôtres va évidemment nous aider. Mais cette aide, elle vient après. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on est déjà à un stade différent, puisque maintenant vous me dites Samsung arrive avec des montres similaires aux nôtres, bah, ils ont une année de retard. Donc, si moi maintenant je fais pas un saut aussi en avant, eh bien ils vont me rattraper. Donc, tant que la concurrence reste derrière, elle me dérange pas parce qu'elle me stimule. Au moment où moi je m'endors et la concurrence me dépasse, à ce moment-là, j'ai un problème. Donc voilà, donc nous accueillons Samsung et d'autres, et nous sommes contents qu'ils arrivent dans une direction qui est similaire à la nôtre, et ensemble, on va être plus fort que tout seul.
Vous avez parlé des nouveaux modèles qui sortiront au printemps prochain. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres fonctionnalités qui vont migrer à nos poignets?
Alors il y aura certainement d'autres fonctionnalités. Et il y en aura peut-être un jour aussi moins de fonctionnalités. Vous voyez, qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi est-ce qu'une montre connectée devrait-elle tout dire, tout faire? On peut avoir des montres connectées plus basiques qui vous permettent peut-être de faire vos paiements, d'écouter de la musique et d'ouvrir votre voiture ou vos différents appartements, maisons, etc. Donc, la montre connectée va se diriger vers, d'une part, encore plus de complexité, encore plus de possibilités, mais dans le même temps, il y a des gens qui diront, mais tout ça, j'ai pas besoin. Moi, j'aimerais juste avoir une montre comme une montre à quartz, mais qui me donne, en plus de l'heure et de la minute, qui me permet de faire des paiements dans les magasins, qui me permet... d'avoir mes pulsations, de faire le check-up de mon sang, etc.
C'est donc, ça, Jean-Claude voilà. Biver, vous nous dites que la santé va prendre une place très importante dans ces nouvelles montres. Oui. Si on parle maintenant du core business de la montre connectée, la santé prend une place décisive.
Oui, c'est absolument certain.
Même la dans votre santé, modèle au printemps, le modèle que vous allez lancer au printemps.
C'est le point central, la santé. La santé, c'est vraiment ce qui sera... le futur de la montre connectée, à mon avis. Les gens l'achèteront principalement, en tout cas, là, je pense qu'il y a 30 ou 40% des gens qui l'achèteront pour les informations qu'elle donne sur leur santé et le contrôle de la santé. Vous avez vu qu'en Allemagne, il y a des sociétés d'assurance qui, si vous portez une montre connectée et que vous permettez à cette montre d'envoyer systématiquement les informations sur votre état de santé aux médecins de l'assurance, ils vous font une réduction de 10 ou 15 euros par mois sur votre prime. Donc on voit, la montre connectée va devenir un outil de prophylaxie pour la médecine, pour le contrôle de votre santé.
On apprenait cet été que les Suisses, entre 16 et 25 ans, boudent un petit peu ces montres connectées. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit une mode passagère, finalement, puisqu'on entre en concurrence directe avec les smartphones qui sont extrêmement utilisés par ces générations?
Oui, mais le smartphone, peu à peu, va perdre de son importance parce qu'il va être remplacé par les objets connectés. Les objets connectés ont un handicap aujourd'hui, c'est qu'ils sont dépendants d'un téléphone. Donc la pièce centrale, la pièce de base, c'est le téléphone. Et tant que le téléphone sera nécessaire pour que votre objet connecté, quel qu'il soit d'ailleurs, vous parle, le téléphone sera la pièce maîtresse. Or, à l'avenir, dans 2 ans ou 3 ans, le téléphone, les objets connectés seront indépendants du téléphone. Autrement dit, on peut s'imaginer pouvoir téléphoner avec la montre et sans le téléphone. Et au moment où ces objets connectés vont tous être indépendants, n'auront plus besoin du téléphone, eh bien c'est le téléphone qui deviendra inutile. Ce qui permet à certains scientifiques d'Intel de me dire à moi, Jean-Claude Biver, de me dire « Attention, Monsieur Biver, il se pourrait que dans 8 ou 10 ans, il n'y ait plus de téléphone. Le téléphone n'aurait plus d'utilité parce que ce sont les objets connectés qui nous entourent qui tous ensemble remplacent chacun le téléphone. Donc il n'y a plus besoin d'un téléphone.
À part peut-être pour se parler à distance, même si peut-être que d'autres objets le permettront. En tout cas, la montre aura encore un bel avenir devant elle. C'est ce qu'on comprend en vous écoutant, Jean-Claude Biver. On retient aussi que vous prévoyez, dans les scénarios les plus optimistes, de produire jusqu'à 150 000 unités de ces montres connectées, qui seront donc assemblées à la Chaux-de-Fonds avec des dizaines d'emplois à la clé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pris un moment pour nous parler de ce marché en pleine croissance, vu de Tagueilleur.
Écoutez, merci, avec plaisir.
Bonne soirée, à bientôt.
Merci, à bientôt, merci.
Place publique.
Chaque année, la ville de Bienne accueille le Festival du film français d'Helvétie. Jusqu'à dimanche, le FFFH bat son plein avec une 12e édition où une quarantaine d'invités, 60 films en version originale et 23 grandes premières seront présentés au public toujours plus nombreux. Des réalisateurs suisses, français et belges présentent cette année leurs films. L'occasion pour nous de parler de la place du cinéma suisse en Suisse et en Europe. Christian Kellenberger, fondateur et directeur du Festival du film français d'Helvétie. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, première question, pourquoi est-ce encore nécessaire de mettre le français à l'honneur au cinéma ?
Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Moi, je vois un point de vue international, parce que la France est quand même le pays producteur numéro 3 dans le monde. La France a le cinéma dans son ADN, et évidemment que ce cinéma-là, il offre d'innombrables films, et je pense que là, il y a une offre exceptionnelle à montrer chaque année au public. Et puis, pour nous, c'est important aussi de véhiculer la culture francophone. Vous savez qu'on est dans une ville bilingue, minoritaire francophone, et je pense que il y a une sorte de symbole, un petit peu de l'identité nationale qui se perd un petit peu. On voit Alain Berset un petit peu partout en train d'essayer de faire revenir les cantons alémaniques aux Français. J'espère qu'il y arrivera avec succès. Et je vois en notre événement un petit peu une sorte de symbole, un petit peu un rapprochement des identités, et que les deux cultures principales linguistiques de Suisse se rapprochent, se mêlent au FFFH. Je trouve que c'est une belle chose.
Les réalisateurs qui viennent vous voir, qui viennent présenter leurs films en avant-première, sont sensibles à cette mission du FFFH qui promeut le français en Suisse ?
Absolument, ils sont très sensibles. D'ailleurs, le dernier exemple en date, Joachim Lafosse, qui était avec nous hier soir pour présenter son merveilleux film « L'économie du couple ». Joachim est un Wallonien, né à Bruxelles. Il nous a expliqué justement que l'idée du FFFH n'existait pas en Belgique, qu'il serait extrêmement intéressant de voir qu'un festival du film francophone puisse éventuellement aussi exister outre Wallonie, chez les Flamands. Et Joachim est vraiment, il a trouvé cette idée merveilleuse et ça l'a énormément touché. Et c'est vrai que tous les réalisateurs français qui viennent à Bienne, qui viennent défendre leurs films, présenter leurs projections, discutent avec le public, il y a souvent des questions données par des alémaniques avec un petit côté comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Il rencontre très très peu le public germanophone. Le cinéma français rencontre plutôt le public anglophone. Ils sont très présents aux USA, en Angleterre. Ils sont un peu moins présents en France, en Allemagne, pardon. Et je pense que Bienne offre aussi un petit peu la possibilité aux réalisateurs francophones de goûter au sentiment du public germanophone.
Alors, est-ce que le cinéma suisse doit encore lutter pour exister aux côtés du cinéma français ou belge, par exemple ? Est-ce qu'il faut redoubler sans cesse d'efforts pour assurer une bonne visibilité, selon vous ?
Bah écoutez, moi je pense que j'en discutais juste avec Bettina Oberli, qui est avec moi actuellement, parce qu'on a un débat sur le cinéma. Bettina Oberli, justement, me disait, elle travaille maintenant sur son nouveau projet, qu'elle va bientôt tourner, et elle me disait, voilà, pour arriver... évidemment à avoir une exposition outre la Suisse, il faut absolument travailler en coproduction. Et on voit très clairement que les grands films francophones, suisses francophones, sont en coproduction, que ce soit avec la Belgique, la France ou le Luxembourg. Mais on voit par exemple que le dernier film de Frédéric Mermoz, Moka, a été un très beau succès, une très, très, très belle critique. Et évidemment que Frédéric Mermoz n'aurait jamais pu réaliser un tel film sans l'aide d'une coproduction française. Et puis la coproduction, ça veut aussi dire un bureau de vente international, un bureau de vente international qui a des contacts un petit peu partout, qui est fort, évidemment pourra aussi vendre le film dans le monde. Et si t'es une petite entreprise de production, ça sera évidemment plus dur d'accéder aux ventes internationales.
Donc là, il y a une vitrine qui se donne à Bienne. Bienne n'est pas Paris, mais quand même, c'est une vitrine. Le FFFH, c'est aussi une plaque tournante, un réseau qui permet justement à ces pays francophones de travailler plus en coproduction, à se voir, à pourquoi pas lancer des projets en marge d'une projection.
Oui, pourquoi pas. On a chaque jour, évidemment, de nombreuses équipes qui se retrouvent à Bienne. Chaque soir, on organise des repas, on va dire, plutôt informels, où toutes les délégations se retrouvent. Je me rappelle d'un exemple, je parle souvent de Bettina Oberli parce qu'on a un lien fort, mais c'est vrai qu'elle est venue, elle, il y a 2 ans, parce qu'elle avait un projet de film en coproduction avec la France, comme je vous le disais, et il y avait une actrice qui était au FFFH, qui défendait un film qui l'intéressait énormément, et donc nous, on essaye aussi d'accéder à ces demandes des réalisateurs, réalisatrices suisses, pour que au FFFH, à Vienne, ils puissent un petit moment discuter sur le fond du projet et pourquoi pas nouer des liens. Et je pense que ça marche très bien. On a vraiment tous les pays francophones réunis à une table. Et c'est vrai que dans ce genre de petites discussions, en une heure et demie, on atteint beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que dans des rendez-vous parfois beaucoup plus prestigieux.
Alors, qu'est-ce qui pousse ces réalisateurs ou cinéastes suisses à s'associer avec d'autres cinéastes d'autres pays ? Est-ce que c'est parce que la mentalité suisse ne donne pas une très grande importance au cinéma ? Ou alors, est-ce qu'il y a des critères financiers là-dedans ?
Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec la mentalité suisse. Moi, je pense avoir uniquement avec des critères financiers et justement avec l'exposition du film. Je pense que une histoire de marché. Évidemment, la Suisse est un tout petit marché. Si vous regardez le marché suisse roman, quand on fait 10 000 entrées en salle, on parle déjà de succès, alors qu'à Paris, c'est 1 million. On peut pas du tout comparer les choses. Mais je pense que pour le cinéma suisse, la seule façon d'exister, mais pour le cinéma suisse-allemand également avec l'Allemagne, c'est justement de travailler en coproduction. Et ça, c'est vraiment pour pouvoir exister en dehors de ce tout petit marché suisse du cinéma.
Quand vous parlez de réalisateurs de Suisse alémanique, vous citiez Bettina Oberli tout à l'heure, ça veut dire que vous les invitez aussi à jouer le jeu du film en français, ou est-ce qu'ils sont convaincus que c'est aussi une manière pour eux de mieux s'exporter ou d'intéresser ?
Alors, dans le cas de Bettina, ça c'est elle, c'est son choix, évidemment. Son nouveau film sera une coproduction avec la France, sera vraisemblablement par les Français, et donc ça montre aussi que des cinéastes suisses, Bettina est zurichoise, avec beaucoup de succès, vont aussi chercher d'autres solutions, d'autres histoires, d'autres chose à raconter au public. Et je pense vraiment que les réalisateurs suisses essayent, pas forcément de s'associer avec d'autres réalisateurs, mais plutôt justement de trouver des maisons de production en France, par exemple, ce qui peut aussi faciliter évidemment le financement du film, ce qui peut aussi évidemment faciliter le casting. Quand on travaille avec une coproduction française, on accède peut-être davantage à un beau casting en termes de comédiens français. Et donc, ce sont évidemment les avantages du cinéma suisse. Et je connais à l'heure actuelle aucun film suisse, roman, ces dernières années, qui a fait quelques entrées, qui a fait parler de lui aussi en France, sans être dans une coproduction.
Cinq films suisses à l'affiche, notamment cinq longs métrages. Il y a notamment Dr Jack de Benoît Lange. Il y a aussi d'autres films, Ma vie de courgette, ou encore L'optimisme de la volonté, etc. Pour vous, c'est un millésime particulièrement prestigieux, intéressant?
Moi, je pense que chaque millésime est intéressant. Je ne sais pas si c'est le plus prestigieux, celui de la 12e édition. En tout cas, en nombre, en termes d'invités, on a évidemment beaucoup de gens qui vont venir à Bienne. 39 personnes, c'est énorme. Après, on peut pas travailler sur la quantité. Moi, ça m'intéresse pas. Si on a une quinzaine d'invités qui viennent, qui sont motivés, qui sont là pour défendre leur film et qui ont des choses intéressantes à dire, c'est tout aussi bien. Là, il se trouve qu'on a 39 invités parce qu'il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de gens qui souhaitent venir à Bienne. Et moi, ce qui me fait aussi particulièrement plaisir, c'est que 80% de ces invités qui sont là et qui viendront sont déjà venus au minimum pour une fois. Et donc, il y a certains réalisateurs, comme Stéphane Brisé, qui revient de Venise avec une vie, qui a gagné d'ailleurs le prix de la critique internationale avec le prix Cipreschi, qui était parmi nous pour la quatrième fois. Et donc, cette fidélité aussi montre que Bienne est devenue une plateforme internationale, d'un point de vue francophone évidemment, mais on voit aussi, et c'est ça qui me fait plaisir cette année, et c'est ça qu'on voit le plus cette année, c'est que vraiment les trois pays les plus importants de la langue francophone en Europe, la Suisse, la France et la Belgique, sont idéalement représentés cette année.
Merci infiniment Christian Kellenberger d'être venu nous parler donc du contexte cinématographique pour ces films francophones de France, Suisse et Belgique. On vous souhaite une bonne suite de festival.
Écoutez, je vous remercie beaucoup et je me réjouis aussi énormément de pouvoir montrer ce soir Le ciel attendra de Marie-Castine Enchenchar. On aura l'actrice principale Noémie Merlant et je peux vous assurer, enfin non, je vous assure rien, je pense que ce film sera l'un des films dont on parlera énormément ces prochains temps. C'est un très très beau film que je conseille à toutes et tous. Il sortira dans les salles le 27 septembre.
L'appel est lancé. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Place publique.
On parle maintenant d'une ville de 8000 habitants qui peut encore changer de canton. Et ça, ce n'est pas rien. C'est dire que l'avenir de Moutier retient l'attention de toute une région et même au-delà. La votation du 18 juin sonne comme l'épilogue de la fameuse question jurassienne qui a tant déchaîné de passions. Alors qu'en reste-t-il aujourd'hui de ces passions? Quels échos en Suisse romande? Avec nous pour en parler, Serge Jubin, correspondant de l'Arc jurassien au journal Le Temps. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Dans quelle mesure, selon vous, la question jurassienne, réduite dorénavant au sort de la ville de Moutier et de quelques petites communes alentour, intéresse encore la Suisse romande?
Alors d'abord, je réagis sur le « encore ». En fait, la question jurassienne n'a jamais vraiment intéressé la Suisse romande. Et ce qui est intéressant, c'est que la Suisse alémanique, notamment par le biais de ses médias ou de la télévision, s'y est toujours plus intéressée. Alors, aujourd'hui que cette question est réduite à la seule ville de Moutier, elle est relativement peu présente, peu intéressante a priori pour le reste de la Suisse romande. Je me permets de dire aussi que souvent tout ce qui a trait à l'arc jurassien suscite peu d'intérêt malheureusement dans la Suisse romande autre, notamment lémanique. Mais pourtant c'est le rôle important d'un média comme Le Temps de parler d'une question institutionnelle importante comme celle de Moutier, comme la question jurassienne. C'est quand même dans une Suisse où les institutions ne changent pas, ne bougent pas, sont dans le marbre depuis 1815. Le fait que des gens souhaitent changer de canton, déplacer les frontières, c'est forcément un phénomène qui est intéressant, qui est important.
Alors vous le dites, ça n'intéresse pas beaucoup la Suisse romande, mais alors qu'est-ce que vous cherchez à mettre en avant dans Le Temps comme enjeu ?
L'enjeu principal, c'est qu'il y a dans cette région du Jura des gens qui souhaitent ou qui estiment que leur sort dans le canton dans lequel ils se trouvent, en l'occurrence le canton de Berne, n'est pas suffisant, n'est pas agréable, n'est pas tel qu'ils le souhaiteraient. Et puis on a vu en 1974 une partie de ce Jura bernois d'alors vouloir créer son propre canton. Et puis aujourd'hui, c'est cet esprit frondeur de vouloir changer de canton, il est toujours là dans une petite partie du Jura bernois, à Moutier notamment, et cette volonté de vouloir faire bouger les frontières, de vouloir faire bouger les institutions, c'est forcément quelque chose qui est intéressant. On voit, alors qu'on parle partout de mondialisation, on estime que les frontières, ça n'a plus grande importance par les temps qui courent, avec la mobilité générale, eh bien on a ici à Moutier des gens qui souhaitent changer de canton, et ça c'est forcément intéressant.
Éditorialement, le quotidien jurassien est logiquement plutôt en faveur d'un rattachement de Moutier au Jura, tandis que le journal Jura, à l'inverse, se prononcera davantage en faveur du maintien de Moutier dans le canton de Berne. Alors, ils ne font pas trop mystère de leur positionnement. Qu'en est-il de vous et de votre journal Le Temps? Est-ce que vous prenez position, vous qui êtes jurassien, qui avez été notamment rédacteur en chef de RFJ?
Et de RJB aussi, par ailleurs.
Et de RJB, par ailleurs. Merci.
Voilà. Alors, je vais vous donner une réponse dans un premier temps qui ne vous satisfera pas beaucoup. Le Temps livre des faits et analyse ce qui se passe, analyse les rapports. Et donc, mon travail consiste à dire aussi bien aux lecteurs jurassiens qu'aux lecteurs aux autres lecteurs du Temps qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des événements, qu'il y a des gens qui souhaitent un changement institutionnel, mais que d'autres aussi, d'ailleurs, qui sont majoritaires et très largement dans le Jura bernois, qui, eux, ne veulent pas de ce changement. Ensuite, mon travail, c'est aussi de faire une lecture très objective, notamment des rapports, des expertises qui ont été présentées cette semaine. Et ces expertises, objectivement, qu'on le veuille ou non, après, on peut toujours interpréter les chiffres autrement ou avoir une appréciation différente, mais ces chiffres plaident clairement pour un transfert de Moutier dans le canton du Jura. Moutier, la ville et ses habitants ont à y gagner, et donc Le Temps, logiquement, a dit ces choses-là de manière objective, donc sans prise de position éditoriale. Le Temps ne prend pas position éditorialement dans le cas de la question jurassienne.
Alors, Moutier, c'est quand même une ville de 8000 habitants qui a envie de changer de canton. Il y a plein d'enjeux identitaires à l'intérieur. Pourquoi ça ne déchaîne pas plus de passion en Suisse?
On a l'impression que la campagne est plutôt calme, hein?
Alors, je pense qu'il y a deux choses qui vont pas forcément ensemble. Peut-être que si la campagne était plus spectaculaire, voire violente, forcément qu'on s'y intéresserait plus. Et le fait que la campagne se passe, on l'a vu aussi avant le vote de 2013, de manière tout à fait sereine, correcte, que les rares dérapages, et je pense qu'on peut mettre de gros guillemets, concernent peut-être l'une ou l'autre prise de position, ou parfois une caricature, ou une petite attaque personnelle. Ce fait-là rend finalement ce conflit jurassien beaucoup trop consensuel, beaucoup trop, entre guillemets, gentil, pour qu'il y ait un intérêt réel de l'extérieur. Et l'autre élément, ou deux autres éléments peut-être. L'un, c'est que la région jurassienne est une région excentrée qui pèse peu en Suisse, qui est peu connue, pour laquelle on a peu d'intérêt. Donc même s'il s'y passe quelque chose, on s'y intéresse relativement peu par définition. Et puis le dernier élément, c'est que c'est une campagne qui est compliquée. Finalement, on aurait envie de se dire, mais pourquoi tous les prévôtois ne veulent pas changer de canton, puis pourquoi tous les prévôtois ne veulent pas rester bernois? Et ça, ce serait simple à comprendre. Dans la mesure où les enjeux sont extrêmement fins, où la campagne est extrêmement fine, elle est extrêmement locale, ben forcément que la compréhension extérieure est plus compliquée.
Le vote d'il y a 3 ans pour la réunion des deux Juras a enterré le projet, on peut dire, de manière définitive, sauf à Moutier, donc on l'a dit, où une courte majorité de la population avait plébiscité un départ du canton de Berne. Est-ce que selon vous, avec le temps qui est passé, au 18 juin, on peut s'attendre à un même rapport de force en faveur du départ vers le Jura?
Je pense qu'il faut, savoir lire un peu l'histoire pour pouvoir amener des paramètres de réponse, et puis en même temps, je vous le disais tout à l'heure et je le développerai un tout petit peu, les enjeux sont tellement spécifiques et complexes que c'est extrêmement difficile de se prononcer aujourd'hui. D'abord l'histoire. Moutier, comme le reste du Jura bernois, a voté pour son maintien dans le canton de Berne en 74, 75 et puis ensuite en 1998, même si depuis une trentaine d'années, les prévôtois élisent des autorités séparatistes. On a eu cette rupture, on dira, en 2013, avec 55% de gens de Moutier qui ont voté pour le canton du Jura. on doit être un peu plus nuancé, puisque une partie de ces gens qui ont dit oui ont certainement dit oui pour voir, puisque ce n'est pas un vote définitif. Donc, on peut presque estimer qu'à Moutier, il y a moitié-moitié chez les électeurs, moitié de gens qui souhaitent le maintien dans le canton de Berne, moitié qui souhaitent changer de canton.
Donc, le suspense reste intact, Serge Hubin.
J'aimerais juste peut-être donner un élément peut-être d'appréciation. On peut imaginer qu'à Moutier, sur en gros les trois quarts de l'électorat, donc il y a en gros 4700 électeurs à Moutier, donc les trois quarts, c'est ceux qui ont voté en 2013, on a une petite marge en faveur du changement de canton. Il y a en gros 1200 personnes à Moutier qui n'ont pas voté en 2013. La campagne, elle se cible vraiment sur ces gens-là, qui sont des gens qui ne votent en général pas ou pas du tout, abstentionnistes, non politisés, qui ne s'intéressent vraisemblablement pas du tout à la question jurassienne. Et en fait, c'est parmi ces gens-là, c'est le camp qui réussira à en convaincre d'aller voter et qui plus est de voter pour son propre camp, qui risque de l'emporter. Et ça, c'est un élément extrêmement important de la campagne. Finalement, c'est une très 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 courte majorité d'abstentionnistes, on comprend bien la formule, qui risque de décider dans quel canton Moutier sera en 2017-18 et ensuite.
Merci infiniment Serge Hubin d'être venu nous faire part de votre analyse, d'être venu nous parler de votre rôle aussi de correspondant pour le journal Le Temps, pour l'Arc Jurassien. On suivra
merci
bien sûr tout
invité.
Cela et puis on vous souhaite une excellente soirée.
À vous aussi, merci.
Et quant à nous, Place Publique prend fin. On vous retrouve dès la semaine prochaine. Et puis, si vous voulez retrouver toute l'intégralité de cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur nos sites RJB, RTN ou RFJ.ch. Belle soirée, Gabriel.
Belle soirée, Nadia. À la semaine prochaine.
Place Publique.